Que Dieu nous bénisse tous, qu'il soit avec nous tous, et que sa parole devienne toujours plus grande et plus glorieuse pour nous. Qu'il nous donne des cœurs reconnaissants, car c'est par grâce que nous pouvons croire, comme le dit l'Écriture. La plupart des gens croient ce qu'ils disent sur les Écritures, ou bien alors des Écritures, mais nous pouvons croire ce que l'Écriture dit et comme elle le dit. Et c'est une grande grâce. Nous avons lu hier de la prédication de frère Branham et nous continuerons à la lire aujourd'hui. Je voudrais lire du prophète Ésaïe parce qu'il s'agit de la semence. J'aimerais lire le chapitre 53. Ésaïe 53. C'est le chapitre dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, où Golgotha nous est présenté d'une manière particulière. Le Seigneur, dans sa souffrance, dans ses souffrances et sa mort, il est écrit ici dans Ésaïe 53, au verset 10, « Mais il a plu à l'Éternel, Ésaïe 53, verset 10, de le meurtrir par la maladie, quand il aura livré sa vie comme sacrifice d'expiation pour le péché, il verra une semence et vivra de longs jours. Et la volonté de l'Éternel dans le plan du salut s'accomplira par lui. » Hier, nous avons de cette prédication glorieuse qui a été donné en 1962, avant l'ouverture des sceaux. Nous avons écouté cette prédication et lu ce qui avait été censé être le fondement de cette magnifique prédication. Nous y sommes plongés. Nous savons que frère Branham n'a pas seulement prêché, c'était une croissance spirituelle. Certes, une base, un fondement, c'était une construction. Un édifice, là aussi, les choses sont allées de clarté en clarté, de connaissance en connaissance aussi pour lui. Et poursuivons aujourd'hui avec cette prédication, la parole parlée est la semence originale. Ici, je lis maintenant à la page 24, le paragraphe du milieu. Cela revient de nouveau à la parole parlée. Alors nous sommes la parole de Dieu manifestée. Jésus a dit la même chose. Celui qui croit en moi, qui je suis, pourquoi je suis venu, dans quel but je l'accomplis, c'est-à-dire pour ramener les hommes à la foi, à la parole de Dieu, sans rien ajouter d'autre. C'est ceux-là qui feront aussi les œuvres que je fais. Voilà. Vous êtes hier, nous avons déjà lu ce passage. Je viens juste de le citer à nouveau pour introduire. Il s'agit simplement de reconnaître maintenant que Dieu a donné sa parole sous la forme originale à son peuple, que nous accueillons comme une semence divine, afin que nous recevons comme une semence divine, afin que puisse jaillir ce qui est nécessaire à l'accomplissement, à l'achèvement de l'œuvre. Je lis à la page 27, au-dessous du milieu. La parole de Dieu est toujours la même que lorsqu'il l'a prononcé il y a des milliers d'années. La seule chose dont elle a besoin, c'est de l'eau. Pourquoi n'avons-nous pas de récolte? Parce que nous avons laissé entrer la mauvaise sorte de semence. Frère Branham, nous y reviendrons dans un instant, parle ensuite de la pluie de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, de la pluie de l'enseignement qui était nécessaire pour semer la parole, pour son ensemencement, et puis et qui accompagne les semailles et de la pluie qui vient avant la récolte. Ici, il parle d'une sorte de semence, d'une espèce pervertie qui est alors entrée. Et cela m'a rappelé ce matin une prophétie de l'année 67. Et je voudrais justement la lire ici. Du 30 juillet 1967, je me permets de dire que je crois de tout cœur que Dieu a parlé au milieu de nous. Je veux dire cela avant de lire la prophétie. Nous ne rejetterons pas par-dessus bord ce qui est juste à cause de ce qui était faux. Je lis ici ce qui suit. Vous avez été pour moi un beau jardin que j'ai beaucoup cultivé, que j'ai beaucoup entretenu. Voyez comme j'ai planté de belles espèces que j'ai plantées moi-même. Et j'ai arrosé tout le monde, j'ai taillé chaque arbre, mais le jour est venu, l'heure est venue, regardez, qui est monté sur la clôture. Ah, c'était la mauvaise graine, la mauvaise semence. Elle s'est plantée ici aussi, mais la hache est à la racine. Seule la bonne semence, la bonne graine est à moi. Je crois que c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ça a été prononcé par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens que Dieu plante et des gens qui s'y plantent eux-mêmes. Et c'est de là que vient la déclaration du Seigneur. Toute plante que mon Père céleste n'aura pas plantée sera arrachée. Vous pouvez le lire dans Matthieu 15. Verset 33. Je voudrais maintenant lire à partir de la page 28. Lorsque Dieu et son peuple deviennent un, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de Dieu irrigue la semence de Dieu, la parole de Dieu, Dieu est produit. Ce n'est alors plus l'individu, mais Dieu lui-même. Pour quelle raison? Parce que vous êtes mort. Vous n'existez plus. Vous vous considérez comme mort, comme creux. Et vous attendez le germe de la graine. Qu'est-ce qui est alors? Ce n'est plus vous, ce n'est plus l'homme. C'est Dieu. Dans l'homme, c'est la semence germée comme la parole prononcée, la parole parlée au commencement. Si la parole de Dieu s'est manifestée dans un homme, ce n'est pas l'homme, car l'homme est mort. Il ne peut pas être à la fois un croisement et un fils. Soit il est un fils de la mort, soit il est un fils de la vie. On vient de nous lire la parole tirée de la lettre aux Éphésiens. Le royaume de... Donc, Dieu riche en miséricorde. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Nous sommes nés dans ce monde en tant que mélange, croisement, hybridation, en tant que croisement sur terre. Mais par la nouvelle naissance, Dieu nous place dans l'état voulu à l'origine. Et c'est la grâce qui s'est manifestée en nous et qui se manifestera jusqu'à l'achèvement. Il est écrit ici ensuite, si c'est un fils de la mort, alors abandonnez-le au diable pour qu'il le tue. Oh, c'est une phrase très dure. Mais il y a des gens qui veulent simplement aller en enfer avec force. des personnes qui empruntent délibérément la voie large pour aller à leur perte. Aucun homme, pas même Dieu lui-même, ne peut les arrêter. Tel est leur projet. Et il faut effectivement laisser partir de telles personnes. Même si on en est désolé. Ensuite, il faut se remettre à Dieu pour un instant afin qu'il tue le diable qui est en vous, qu'il le chasse, qu'il vous vide, qu'il vous purifie, qu'il fasse sortir tout ce qui est en nous. Permettez à Dieu de planter ensuite sa propre vie en vous. Alors, vous ne l'êtes plus. C'est la vie de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Dès que le Saint-Esprit l'arrosera, la même vie en sortira. Comprenez-vous cela? Nous avons entendu cela à propos de la semence. La semence doit être arrosée. Elle a besoin d'humidité pour pouvoir lever et croître. À la page 29, je lis le dernier paragraphe. Christ signifie au loin, un homme qui a été loin. Dieu habitait en lui. Qu'est-ce que c'était? Le germe dans un corps. Loin, le corps qui était, donc le corps loin de l'Esprit de Dieu, produisait la parole de Dieu manifestée. Et nous avons contemplé justement sa gloire, une gloire telle qu'elle est semblable. Donc, telle qu'elle est donnée par le Père au Fils seul engendré de lui, pleine de grâce et de vérité. C'est là ce qu'il était. Il était la parole de Dieu manifestée. Puis il est mort pour payer la dette de notre crucifixion. C'est pour cela que c'est arrivé. Pour que vous puissiez mourir à vous-même jusqu'à ce que vous ne soyez plus, vous n'existiez plus du tout, mais que vous soyez remplis de sa parole parce que vous croyez sa parole. Alors, le Saint-Esprit qui était en lui descend sur vous pour arroser la parole afin qu'elle croisse. Nous avons semé en abondance des semences de la parole. Et cela aussi sera encore traité ici, des différentes semailles qui après tout entraîneront tous une récolte. Et s'il est certain que toute semence, quelle qu'elle soit, entraîne une récolte, il est tout aussi certain qu'après la semence divine de la parole, l'ensemencement divine de la parole, il y aura une récolte divine. Il y aura des fils et des filles de Dieu nés de l'Esprit et donc, n'est pas l'Esprit et par la parole de Dieu. Nous le verrons tout à l'heure. Je poursuis ma lecture. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu se fait connaître et poursuit l'œuvre de son premier fils, de son fils seul engendré par lui, qui est mort pour nos vies hybridées, croisées, pour nous ramener afin que nous soyons à nouveau des fils et des filles de Dieu. Oh, comme cette pensée est précieuse. Dieu poursuit son œuvre. Il poursuit l'œuvre de son premier-né dans les premiers-nés. L'œuvre que son fils a commencée, il l'a poursuit dans ses fils et filles, au pluriel, la même œuvre, la même chose, la même parole, la même semence, le même esprit. De même que nous venons tous terrestrement d'après Adam, de même nous venons tous spirituellement après Christ, qui est en effet appelé le second Adam. Une parole glorieuse, une expression merveilleuse. Cela va encore plus loin ici. Afin que nous soyons de nouveau des fils et des filles de Dieu. Il faut maintenant, par l'Église, que la même vie par la parole se développe, accomplisse quelque chose, s'épanouisse, afin que la parole puisse continuer à se manifester comme elle l'a fait par Christ. Christ était la parole de Dieu manifestée. Il mourut, a donné sa vie afin de pouvoir envoyer l'Esprit. Il est monté dans son corps au ciel. Il est monté dans son corps au ciel et nous envoie l'Esprit pour arroser ce pourquoi il a payé le prix de la rédemption. Si nous pouvions que le croire, et nous le croyons simplement, parce que c'est vrai, parce que cela s'est produit pour nous, a eu lieu pour nous, nous pouvons donc le croire, d'autant mieux si d'autres nous l'avaient seulement rapporté ou raconté. Notre foi serait mêlée d'efforts, mais le fait que Dieu se soit montré miséricordieux envers nous, qu'il se soit révélé à moi et à toi, qu'il m'ait parlé et qu'il était parlé, que sa parole soit tombée dans ton cœur et dans le mien. Cela nous permet de croire, parce que cela s'est passé avec nous, en nous, et à travers nous, et continuera à se passer. Le Seigneur s'est préparé une église par laquelle il peut continuer à agir, par laquelle il peut amener sa parole à l'exécution, oui, à son accomplissement. Je lis le paragraphe suivant. Vous demandez pourquoi mets-tu tout l'accent sur la Bible? Mais ce n'est pas moi qui ai posé cette question, ni aucun d'entre nous. Nous sommes heureux que Dieu ait eu un homme qui a mis tout le poids sur la Bible, un poids plein, un poids entier sur la Bible et sur rien d'autre. Et jusqu'à la fin, nous ne prêcherons que ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible et nous laisserons tout le reste à Dieu. Il ne sera pas en retard. Il ne viendra pas trop tard. Vous demandez, mais pourquoi mettre tout le poids sur la Bible? Mais la Bible doit être en vous. La parole est une semence. Mais tant qu'elle n'est écrite qu'en elle, elle n'aura aucun effet. Mais dès qu'elle entre ici, dans votre cœur, dès qu'elle entre dans le cœur, alors elle commence à faire connaître les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. Alors vient la puissance, puis vient l'humilité, puis viennent les visions. Toute votre connaissance disparaît. Vous devenez un rien du tout. Et le Christ devient tout et vivant en vous. Quand peut-il devenir vivant en nous? Après que nous soyons réellement morts à nous-mêmes. Deux choses ne peuvent pas coexister. Est-ce qu'ils sont si opposées l'une de l'autre? Non. Donc, mourir avec Christ. Être réellement mort à soi-même, c'est-à-dire à toutes ses propres pensées, à tous ses propres projets, quels qu'ils soient, pour pouvoir vivre la vie qui nous tient et retient cachée en Christ et en Dieu. et qui nous maintient en lui. Je continue à lire ici. Il vit. C'est parce qu'il est mort que moi je vis. Il vit. C'est parce qu'il est mort que je vis. Si je meurs, lui, il peut à son tour vivre en moi. Remarquez-vous l'interaction. Donc, il est question ici. Même un homme qui est né de nouveau pour l'espérance vivante doit abandonner ses propres idées, doit abandonner sa propre vie à la mort encore et encore, afin que le Christ puisse vivre et que la volonté de Dieu puisse être faite. Je suis mort à moi-même, et cela entièrement, afin de pouvoir avoir sa vie. Comment l'ai-je fait? En acceptant sa parole, sa semence, et en la recevant dans mon cœur par la foi. Je l'ai cru. Et c'est pourquoi elle produit exactement ce que la Bible dit. Dieu a utilisé un prophète pour exercer un service à notre époque. Il a cru à la mission que Dieu lui avait confiée. Il a apporté la parole. Et parce qu'il a cru, Dieu a confirmé d'une manière inédite. Oui, d'une manière inédite chez n'importe quel prophète. Mais maintenant, c'est à nous d'agir. Si Dieu a envoyé un prophète et que celui-ci a cru et annoncé, après que le Seigneur a confirmé sa parole, alors nous qui avons entendu ce message confirmé par Dieu et l'avons reçu dans la foi, nous devons compter fermement sur le fait que Dieu se révèle encore aussi à nous et confirme sa parole comme étant vraie. Je lis en haut de la page suivante, page 31. Tous les fils et toutes les filles de Dieu sont prédestinés. Mais dites-vous maintenant qu'il rejetterait simplement quelqu'un? Non, vous êtes dotés du libre arbitre. Mais parce qu'il est Dieu, l'infini, il savait d'avance tout ce qui allait arriver. Je vous en ai déjà parlé. Il savait qui ils étaient. C'est ce que nous croyons tous. Que Dieu sait toutes choses. Et de même que Jésus-Christ a été prédestiné à mourir comme fils de Dieu, de même, par lui, tous les fils et les filles de Dieu ont été prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu ne commence pas à planifier aujourd'hui. Dieu a planifié avant que le temps même ne commence. Et nous le croyons aussi de tout notre cœur. Le dernier paragraphe ou les quelques lignes du dernier paragraphe ici. Christ ne pouvait pas être autre chose que ce qu'il était. Il était le Fils de Dieu. Voilà ce que c'est. Voyez-vous maintenant ce que je veux dire? Voici. Si vous êtes prédestiné à cela, vous reconnaîtrez la parole de Dieu et vous la connaîtrez et vous la croirez. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Dieu a dit qu'il faisait quelque chose de nouveau. Mais il faut que ce que Dieu a révélé de nouveau soit placé dans un cœur renouvelé. Renouvelé pour qu'il puisse porter du fruit. Pour que cela puisse porter du fruit. À la page 32, le paragraphe du milieu. C'est pour cette raison que Dieu a pu accomplir ses œuvres par Jésus. Car il était le Fils prédestiné. Il était l'agneau immolé avant même la fondation du monde. Il y a des centaines, des millions d'années déjà, comme je l'ai dit plus tôt à propos d'Éphésiens chapitre 1, verset 1. Il était prédestiné à prendre sa place. Amen. C'est pourquoi il fit la volonté du Père. Il était la parole manifestée. Par chaque autre fils, la même chose sera révélée. Ce sont ceux
qui
seront révélés, la même chose sera révélée et est révélée. Ce sont ceux qui sont prédestinés. Si nous croyons à la prédestination, et nous devons le faire, si nous tenons les Écritures pour vraies, alors nous devons aussi nous attendre, comme il est dit ici, aussi à prendre, nous, notre place en tant que fils et filles de Dieu. Et aussi certain que chaque promesse faite à lui, le premier, le fils seul engendré de Dieu, aussi vrai que chaque promesse est accomplie, qui était écrite faisant référence à lui. C'est ainsi qu'il faut que nécessairement, parce que la bouche sainte du Seigneur l'a dit, il faut que aussi chaque promesse s'accomplisse dans l'église du Dieu vivant, toute promesse que Dieu lui a faite. Dieu ne brise pas sa parole. Il ne l'annule pas. L'écriture ne peut pas être annulée et brisée. Elle reste fidèle. Il reste fidèle à ce que... Elle reste fidèle, pardon, à ce que Dieu a dit. L'écriture reste fidèle. À la page 33, ci-dessus. De même qu'il a été prédestiné, la parole, semence de Dieu, deviendra chair en vous, sans l'Église. Vous voyez de quoi il s'agit? Ce n'est pas seulement pour lui, mais en vous, dans l'Église, qu'elle deviendra chair, qu'elle s'incarnera. Vous dites certes, frère Branham, je crois toute parole. Alors ne faites pas marche en arrière quand il s'agit de vos traditions, de vos coutumes. Combien, malgré la révélation de la parole et de la volonté de Dieu, font-ils marche arrière quand il s'agit de certaines choses qui ne sont pas taillées à leur mesure. Et ils se rabattent sur les traditions et les coutumes et laissent tomber la parole révélée de Dieu, par Dieu. Et cela ne doit plus se produire. Les traditions, les coutumes n'ont plus leur place là où il y a la révélation. Laissons-les à ceux qui se sont déjà transmis depuis des générations. Laissons ces choses à ces gens. Nous ne sommes pas destinés à croire aux traditions et aux coutumes. Dieu nous a destinés à croire de tout cœur sa parole révélée. Puis vient la révélation, puis la vue d'ensemble et le discernement. Accrochez-vous seulement à la parole. Restez avec la parole. Puis faites attention à ce qui se passe. Dites, ô Seigneur, je le crois. Envoie le Saint-Esprit. Nous devons prendre la décision dans notre cœur et confesser avec nos lèvres, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois ta parole. Nous avons également insisté sur ce point. Tant que la chose n'est que dans le cœur, sans être exprimée par la bouche, prononcée par la bouche, l'ennemi peut encore faire des allers et retours. Mais à partir du moment où ce qui est devenu une réalité divine, une révélation divine dans ton cœur, par l'esprit, et que tu le prononces, cela maintenant devient une partie de toi. Et toi tu deviens une partie de la chose. Et Satan doit s'éloigner parce que tu le rencontres alors avec la parole de Dieu. Et il ne peut pas opposer une résistance au Seigneur et à sa parole. Avant que nous n'en venions tout de suite à un passage tout à fait maladroit, je voudrais dire ici avec un cœur sincère que je ne savais pas que si frère Branham faisait un tel saut de pensée ici dans cette prédication. Mais maintenant, il est là, cela est là, et nous allons aussi lire cela à la même page 33, à peu près au milieu du paragraphe central. Il s'agit de la foi de la semence d'Abraham, qui croit la parole de Dieu. Peu importe les circonstances, c'est ça. Vous savez, maintenant je pourrais crier de joie. Frère Branham a si souvent mentionné Abraham. À l'époque, quelqu'un qui avait entendu les prédications à Karlsruhe en Allemagne et à Zurich en Suisse m'avait dit que Frère Branham s'était répété, se serait répété et qu'il aurait raconté l'histoire d'Abraham de manière toujours nouvelle. Mais les gens oublient complètement que Dieu nous a donné justement Abraham comme un exemple extraordinaire. Il oublie. Abraham a cru Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit. Il est ainsi devenu le père de la foi de tous ceux qui entendent la parole du Seigneur et la croient et la mettent en pratique. Frère Branham dit ici, maintenant, je pourrais pousser des cris de joie. J'aimerais qu'il en soit de même pour nous tous. Que nous soyons saisis par la révélation de la parole de Dieu de telle sorte qu'elle puisse aussi être perçue extérieurement, que nous sommes saisis par la révélation de la parole de Dieu. Je pousse une lecture. La lecture. Remarquez, regardez, comprenez. La semence de la foi d'Abraham. À quoi cela tenait-il? À quoi cela? Non pas au corps d'Abraham, mais à la foi d'Abraham. C'est de ça qu'il s'agissait. En quoi Abraham croyait-il? À quoi cela tenait-il? La parole de Dieu. Peu importe ce qui venait, il nommait tout ce qui était contraire à celle-ci comme si cela n'existait pas. Cela ne mettrait-il pas les dominations en pièces? Certainement. Si la vérité sur le mariage et le divorce était présentée à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible, cela briserait toute église dans cette ville et dans toutes les autres si elles essayaient de s'y conformer. C'est une phrase étrange qui mérite d'être méditée. Les deux parties ont tort. Je peux le prouver par la parole. Ils sont tous les deux dans l'erreur. Eh bien, je peux le prouver par la parole. Ils ont tous les deux tort. Bien, bon, je ne vais pas dire si un homme doit faire ceci ou si une femme doit faire cela. Car il y a déjà ici de confusion entre eux. Déjà assez de confusion entre eux. Jésus a dit, laissez-les faire. Les aveugles guident les aveugles. Ils ne feraient que discuter à ce sujet, mais n'y croiraient pas. Restons-y un instant. Représentez-vous l'année 1962, si vous voulez être précis, et savoir précisément les choses au 18 mars de cette année-là, de 62, puis plus tard, à l'année 65, quand on a parlé de ce sujet, mariage et divorce. Et déjà ici, Frère Branham dit que cela ne ferait que créer plus de confusion. Il ne ferait que se disputer à ce sujet. Cela ne les aiderait pas. Les aveugles continueraient à guider les aveugles. Mais il y a des gens qui sont devenus voyants. Il y a des gens qui ont été aidés. Des gens qui ont reçu la parole révélée comme envoyée par Dieu. Et ils peuvent classer les choses de manière biblique et divine. Non pas avec des scribes, mais par la révélation que Dieu a donnée. Je lis le passage, le paragraphe central de la page 34. Si donc la parole semence est prédestinée tout comme il l'était, que produit la même eau alors? L'Église d'aujourd'hui est-elle une épouse prédestinée? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il aura une épouse sans tache ni ride, irréprochable? Alors, elle est aussi prédestinée, n'est-ce pas? Le Christ aussi était prédestiné. Il était la descendance royale d'Abraham. Que s'est-il passé? Lorsque l'Esprit est descendu sur Christ, il a rendu témoignage à la parole de Dieu. Et si l'eau, l'Esprit,
tombe sur la semence de la parole, alors la semence royale d'Abraham qui croit à la parole de Dieu produira le même genre de récolte. Comme le pont a été merveilleusement jeté à maintes reprises du rédempteur au racheté, du premier-né au premier-né, et du fils aux filles et aux filles de Dieu. Comme nous l'avons déjà dit plus tôt, la même parole, le même esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui opère tout en tous. Et nous le reconnaissons par la manière dont il le fait. C'est-à-dire toujours selon sa parole et non selon notre opinion. On ne nous demande rien. On ne nous demande pas notre avis n'est pas demandé. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de croire comme l'Écriture l'a dit et laisser Dieu agir en nous. Les dernières lignes de la page 34. Qui est donc la postérité d'Abraham? La semence d'Abraham. Pas celui qui l'est selon la chair. Paul a dit que le juif n'est pas celui qui l'est extérieurement, mais celui qui l'est intérieurement. Qui est donc la semence d'Abraham? Ceux qui croient toute la parole de Dieu. Voilà la semence d'Abraham, la postérité d'Abraham. Abraham a-t-il pu interpréter quelque chose? A-t-il pu demander, Seigneur, pourquoi dois-je le faire maintenant et pourquoi ne peut-il en être autrement? Le Seigneur a parlé. C'était un commandement saint pour lui, sacré pour lui, un ordre, et il a été exécuté simplement. À la page 35, je lis les six dernières lignes. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh oui! Quand les a-t-il choisis, eux, l'Église? Qu'a dit Jésus en choisissant son Église quand il l'a choisi? Avant la fondation du monde! Je lis maintenant la parole, car en lui, il nous a déjà élus avant la fondation du monde. Était-ce lors du dernier réveil donné par le docteur tel et tel? Non. Avant la fondation du monde. C'est là que notre foi trouve son repos. Car c'est alors seulement qu'elle repose en Dieu qui a établi toute chose avant la fondation du monde, selon le conseil de sa propre volonté. Fixer toute chose selon sa propre volonté, avant même la fondation du monde. L'homme qui ne croit pas cela, voit sa foi chanceler. Mais si nous croyons, comme le dit l'Écriture, un tel ancrage se produit qui ne peut plus nous faire perdre l'équilibre. Il peut y avoir des épreuves, c'est vrai, parfois difficiles, mais elles nous serviront pour le bien. Elles serviront à notre bien. Je lis à la page 36 maintenant, presque au milieu, après le texte biblique. Qui a fait cela? Dieu. Et quand? Avant la fondation du monde. Mais lorsque nous sommes nés illégitimement de la corruption d'Ève, nous sommes en effet ses enfants et avons donc été soumis à la mort. Alors, le Dieu souverain devait créer une possibilité de rédemption pour ses enfants. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Où est donc la grande chose que vous avez à faire? Ou bien alors que vous avez fait? Vous n'avez absolument rien fait. Vous devriez avoir honte. Dieu a tout fait. Les choses ont toutes leur raison d'être. Il y a des gens qui regardent ce qu'ils ont fait, s'en glorifient et se croient grands. Et ce sont ces mêmes gens-là qui regardent ensuite les autres et voient ce qu'ils ont fait de mal, les regardent de haut et se croient encore grands eux-mêmes. Et puis il y a un groupe dont je voudrais nous compter parmi les membres. Celui qui ne se regarde pas lui-même parce que quelque chose de grand a été fait et qui ne regarde pas les autres parce que quelque chose de maladroit a été fait. Pas les autres, d'après eux, mais un groupe qui lève les yeux et le cœur vers le ciel avec reconnaissance et qui élève la voix pour remercier Dieu de ce qu'il a fait. Qu'avons-nous pu faire pour notre rédemption et notre salut? Rien du tout. Alors que nous étions même pas encore nés, Dieu nous a réconciliés avec lui, même en Christ, sur la croix à Golgotha. Alors que nous n'avions encore aucune faute, alors que rien n'existait encore, Dieu a déjà tout réglé et tout expié et nous a tout enlevé. La rédemption vient du Seigneur et nous a été accordée gratuitement. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'étrange, mais c'est là pour moi-même aussi des surprises dont personne n'est à l'abri. Je poursuis ma lecture à la page 36. Un jour, quelqu'un est venu me voir en m'insultant et en m'accusant d'avoir fait quelque chose de mal. J'ai répondu, « Oh, oublie ça. » Belle manière anglaise. « Just forget it. Just forget it. Laisse tomber. Tout simplement. Qu'est-ce que ça peut faire? Et cet homme n'avait pas l'air d'en être très content. Je poursuis ma lecture. Il a demandé, mais comment peux-tu prendre cela à la légère? Cela concerne quand même ta famille. Oh, chose grave, bien sûr. Et il dit, forget it. Oublie ça. Comment peux-tu prendre cela à la légère? Cela concerne quand même ta famille. J'aimerais bien avoir un peu de sang indien dans les veines comme frère Branham pour pouvoir prendre certaines choses un peu plus à la légère. Mais comme je l'ai dit, nous sommes tous comme nous sommes, terrestres et divins. Il répondit, « Oh, cela a été prédestiné comme épreuve pour moi avant même la fondation du monde. » Oui, que dites-vous maintenant? Cela a été prédestiné pour moi comme une épreuve avant même la fondation du monde. Et une épreuve doit être surmonté. Là où il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de certificat, rien n'est attesté. Nous devons passer par toutes sortes d'épreuves. Et frère Branham avait un fondement divin. Il ne croyait pas seulement à la prédestination en général et en retenant ensuite quelques domaines et points. Il croyait à une prédestination totale, globale de Dieu dans sa vie et sa famille, son service, sa mission. Il croyait en Dieu. Il croyait Dieu. Et c'est pourquoi il pouvait dire, oublie ça. Forget it. Oublie ça. C'était prédestiné pour moi comme épreuve avant la fin du monde. Certes, ce n'est pas grave. D'un point de vue humain, cela peut avoir été complètement différent. Car la réclamation en soi implique déjà quelque chose n'était pas en ordre. Les reproches. Et il dit, tout là est en ordre ainsi. Et ensuite, il a continué son chemin avec Dieu. Que Dieu m'aide à faire la même chose. Il m'a demandé, mais comment fais-tu ça? Comment fais-tu? Je lui ai répondu, si je ne regardais que aux épreuves, je tomberais tout le temps. Sa vie aussi n'a pas non plus été épargnée par les épreuves qui sont venues au sein de sa famille. Mais il a dit, si je les regardais tout le temps, je tomberais tout le temps. Nous ne pouvons pas regarder les obstacles, ni même nous arrêter à eux. Mais nous devons soit ou alors les éliminer, soit passer par-dessus, car un chemin n'est pas fait pour s'arrêter, un chemin est fait pour marcher. Et c'est pourquoi nous devons aller de l'avant en croyant au Seigneur. Mais que toutes les choses soient prédestinées, même les choses terrestres, même ce qui nous arrive, cela me reconforte et me fortifie. Et je crois que cela fait la même chose pour vous. À la page 37, à peu près au milieu, nous lisons, les croyants de la parole et de l'esprit doivent être un. Comprenez-vous cela? Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Vous ne pensez plus par vous-même, vos propres pensées. Vous n'avez plus besoin de votre propre réflexion, votre propre raisonnement. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Les pensées, l'esprit, les sentiments qui étaient en Christ est en vous, sont en vous. L'esprit de Christ en vous prendra la parole comme il l'a fait, car il était la parole. Si la pensée de Christ est en vous, les sentiments, l'esprit, alors vous êtes la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. Vous le représentez ici-bas en poursuivant l'œuvre. C'est ainsi qu'il devrait en être avec l'Église. Nous avons également souligné cette pensée à maintes reprises. Dieu en Christ et Christ dans l'Église. De même que Christ a accompli les œuvres de Dieu, nous devons accomplir les œuvres de Christ. Il est encore dit ici, s'il en est ainsi, la Bible sera à nouveau réalisée, confirmée, accomplie, comme elle l'était dans les jours précédents, à l'époque des disciples. Alors la Bible vivra à nouveau, et cela en vous, à travers vous. Alors la parole est écrite ici, et la parole qui est écrite ici et qui a été déposée dans vos cœurs sera confirmée par l'Église et deviendra ainsi une réalité divine. Alors nous ne lisons plus seulement ce qui est écrit. Alors les gens voient que la parole écrite est devenue vivante en ceux qui la croient et qu'elle a trouvé en eux sa confirmation, c'est-à-dire l'accomplissement, sa confirmation, à savoir l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Et cela aussi, nous le croyons de tout notre cœur. Car Dieu ne fait pas de vaines paroles. Il pense ce qu'il dit et dit ce qu'il pense. Le dernier paragraphe de cette page, croyez-vous bien que s'il en est ainsi, la Bible sera de nouveau connue comme au jour de Christ. Car alors, vous êtes exactement une semence prédestinée comme l'était Christ. Quand la pluie tombe sur la semence, la vie sort d'elle-même. Il se passe alors la même chose que lorsque le Saint-Esprit est tombé sur la semence autrefois dont Jésus a dit qu'elle avait été choisie avant la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, eux aussi étaient une semence prédestinée. Est-ce vrai? Ils se retiraient dans la chambre haute. La semence, la parole, était en eux. Mais n'étaient pas encore sortis pour vivre. Tout à coup, il y eut un bruit tumultueux du ciel et des torrents descendirent. Ils remplirent toute la maison où il se trouvait. Puis, la semence commença à pousser. Elle commença à se manifester. La parole de Dieu se réalisait. J'allais dire que la parole de Dieu produisait son effet. Les deux choses disent la même chose. La parole de Dieu se réalisait, se confirmait. Les deux. Donc la parole de Dieu se réalisait, les promesses devenaient réalité grâce à ceux qui les portaient et qui y croyaient. Elle n'était pas seulement écrite, elle était entendue, elle était à entendre, à voir, elle était à expérimenter. Alors que le Seigneur, en tant que ressuscité, était parmi son peuple tel qu'il avait promis. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et c'est écrit, il est dit ici, qu'il travaillait avec eux, confirmant leurs paroles, leurs témoignages, de la parole, par la par des signes et des miracles qui accompagnaient la prédication. Nous comptons simplement sur le fait que Dieu fasse quelque chose, pas sur le fait qu'un homme vienne maintenant et dise, voilà, j'ai la situation en main. Une telle personne n'existera pas. J'aimerais justement dire l'inverse. Que vienne le moment où Dieu nous tiendra tous en main, toi et moi, nous tiendra tous en main, afin qu'il puisse faire avec nous et par nous et à travers nous ce qui lui plaît, c'est-à-dire produire l'effet pour lequel, produire l'effet que nous attendons, accomplir les choses que nous attendons. Je lis à partir de la page 39 environ, la sixième ligne en haut. Ouvrez maintenant vos cœurs et écoutez. Souvenez-vous, la Bible dit dans Genèse, dans le texte que nous avons lu et duquel nous avons tiré l'idée de base pour aujourd'hui, que chaque semence produit selon son espèce, doit produire selon son espèce. Elle doit produire selon son espèce, c'est vrai. Chaque semence doit le faire. N'oubliez pas que la terre est pleine de graines, de semences. La pluie fait en sorte que chaque semence produit selon son espèce. Je crois que le temps de la récolte est proche. Croyez-vous cela? Ne le croyez-vous pas aussi? Vous êtes tous d'accord, n'est-ce pas? Nous sommes proches de la récolte. Les semences ont été semées. C'est ce qui nous arrive. Les semences ont été semées. Oh Dieu, j'aimerais que vous puissiez voir ce qui vient de passer devant moi maintenant. Les semences ont été semées. Vous savez qu'il y a un temps pour les semailles et plus tard un temps pour la récolte. Vous savez qu'il en est ainsi. Maintenant, il peut y avoir des gens qui prennent cela au pied de la lettre et à la lettre. Alors si vous le faites et que vous acceptez cette pensée comme si tout était arrivé à son terme, alors frère Branham n'aurait pas eu besoin de donner une autre prédication depuis le 18 décembre 1962. Il dit ici, la semence a été semée. En 62 décembre, 18 décembre. Je n'ai pas pu tout lire, mais il parle d'Oral Robert, de Billy Graham, il parle d'hommes qui ont semé une certaine semence et les uns ont pris cette semence et les autres ont pris l'autre semence, d'autres, celle-là, etc. Et des semences ont été reçues pour ensuite transmettre ces mêmes semences ici et là. Non. C'est ainsi ce qu'il a vu. Qu'une semence divine, à savoir les promesses pour ce temps, a été placée sur le chandelier et mise à disposition comme semence. Et c'est justement ce que Dieu a mis à notre disposition que nous prenons pour le porter. Et je crois que c'est le prophète Ésaïe qui dit qu'il parte en pleurant, portant une noble semence et qu'il revienne chargé de jardin. Chargé de fruits, ils partent en pleurant, mais ils portent une noble semence, la noble semence, la parole de Dieu, la parole originale, qui ne doit pas être mélangée, qui ne peut pas être mélangée, qui n'a pas le droit d'être mélangée. Nous l'avons entendu et nous le confirmons avec toute la joie du monde, sans aucun si et sans aucun mais, que nous sommes sur terre, un mélange, un croisement, que nous sommes nés pour mourir, nous le savons tous. Mais j'ose tout autant dire que Dieu a réparé les dégâts en Christ. Et que lui qui a été crucifié a résolu ma crucifixion et la tienne. A fait en sorte que nous puissions mourir à nous-mêmes pour faire de nous des véritables fils et des filles de Dieu. Là aussi nous avons la division, la répartition temporelle dans la parole de Dieu. Jean écrit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais quand cela sera manifesté, alors nous serons semblables à lui. Et ça, nous le croyons de tout notre cœur. Car nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Sur la même page, le dernier paragraphe, nous entendons tellement de choses dans les différentes organisations sur le fait que nous sommes maintenant dans la pluie de l'arrière-saison. C'est une absurdité. Ce n'est pas le cas. Oh, il se passe quelque chose maintenant. Je le vois passer devant moi. L'Esprit s'en est emparé. Amen. Je sais que c'est la vérité. C'est ainsi, dit l'Éternel. Une vision vient d'arriver. Je suis presque incapable de continuer. Chaque fois que je regarde, je vois se dérouler devant moi cela. Puis, elle s'interrompt et je reviens à ma contemplation de la prédication. J'ai essayé d'observer certains d'entre vous qui étaient assis là. Puis, je les regardais ailleurs. Mais partout où je regardais, quelque chose m'était montré. Frère Branham voyait des visions pendant qu'il prêchait. Il voyait des visions pendant qu'il entrait dans la salle ou qu'il était assis. Il est né, comme le savons tous, avec ce don. Il se souvient de la première expérience de toute sa vie. Et c'était une vision. Dieu l'avait destiné à cela. J'espère que j'ai raison. Où était cet homme avec les raquettes? Quoi qu'il en soit, il était né en tant qu'homme dans ce monde, dans un but très particulier. Et comme le prophète Jérémie, ou comme il lui a été dit, qu'il avait été formé plus tôt dans le ventre de sa mère, déjà désigné, il avait été formé déjà le ventre de sa mère à être prophète pour les nations. Il est né prophète. Il n'a pas été fait prophète. Dieu l'a fait prophète depuis le ventre de sa mère. Et avec son service, nous avons été ramenés à la parole. Et nous croyons, comme je l'ai dit en le soulignant hier, que le temps des interprétations, des explications, des traditions, des coutumes, des credos est totalement passé. Et que nous devons prendre au sérieux la parole qui nous est adressée. Et ici, il s'agit de cette expression, la pluie de l'arrière-saison. Et ici, Frère Branham dit, il y en a qui prétendent que la pluie de l'arrière-saison est déjà passée, ou bien alors que nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Alors il dit, je vois quelque chose se déployer devant moi. Et justement, cette parole, je vois comment est-ce que cela se déploie. Me rappelle au troisième pull et à plusieurs autres notions que je ne vais pas mentionner ici. Il disait même du septième saut, comment il a dit, il voit comment est-ce que cela se déploie, mais il n'avait pas le droit de dire quelque chose. Nous pouvons être sûrs que Dieu nous réserve encore bien des surprises. Et au bon moment, Dieu fera ce qu'il faut. Nous pouvons être tranquilles à ce sujet. Nous sommes également heureux de savoir que beaucoup de choses nous attendent encore. La situation que nous connaissons aujourd'hui ne sera pas celle que nous connaîtrons au jour du retour de Jésus-Christ. Vous pouvez en être sûr. Il y aura un temps, je peux vous le lire dans la parole de Dieu, Actes apôtres 3, versets 20 et 21. Peut-être même l'aide à partir du verset 19. Dieu enverra un temps de rafraîchissement de la face du Seigneur. Et Christ reste au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, de la restauration de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de tous les prophètes dès les temps anciens. C'est précisément dans ce contexte-là qu'il est question du temps de rafraîchissement que le Seigneur enverra. Qu'il envoie bientôt. Plus vite il viendra, plus vite nous serons rafraîchis et nous avons tous besoin d'un rafraîchissement. Je lis le deuxième paragraphe de la page suivante. La semence semée a besoin d'eau avant de pouvoir pousser. La pluie doit tomber avant que la semence qui a été plantée puisse pousser. Viennent ensuite quelques explications. Ensuite, la semence doit être semée. Et ensuite, elle a besoin d'eau pour pouvoir pousser. Vous dites maintenant, frère Branham, que nous avons déjà reçu l'eau. J'exprime ainsi votre pensée. C'est vrai. C'est exact. Vous avez reçu de l'eau. Dans le paragraphe suivant, il dit, qu'avons-nous reçu dans le temps de la plante, la pluie de l'avant-saison? Eau Dites-vous, c'est n'importe quoi. Un instant, s'il vous plaît, vous voyez, regardez dans Joël, en anglais, chapitre 2, chez nous, chapitre 3, après que là, au sujet de la pluie, de l'avant-saison, vous pouvez lire dans le mot hébreu, pour cela, si vous voulez, notez-le, s'appelle morin, la pluie d'avant-saison en hébreu, morin. Là, frère Branham parle de la pluie d'avant-saison qui s'est produite en même temps que les semailles. Et si vous lisez attentivement le mot qui s'y trouve, vous constaterez qu'à la fin, les deux tomberont au même moment. Peut-être que frère Branham y pensera aussi. Lisons la dernière phrase de la page 40, puis la page 41. Mais la parole produira des fils et des filles de Dieu. Cela aussi vient. Voyez ce que cette puissante pluie de l'arrière-saison doit produire. Remarquez-vous ce qu'elle vise à la pluie de l'arrière-saison, à l'effusion finale du Saint-Esprit. Donc il s'agit alors de la puissance qui vivifie, qui rafraîchit tout. La puissance qui doit habiter en nous pour rendre nos corps mortels vivants. Quelqu'un a alors dit que si nous voyons les morts, nous aurons la foi en la résurrection. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de dire, ce n'est pas par la résurrection des morts que la puissance de résurrection me sera communiquée. Mais comme il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans vos corps mortels, alors il donnera la vie à vos corps mortels, pas en voyant les morts ressusciter. Ça, c'est la parole de Dieu. Et cela reste ainsi. Il n'y aura rien d'autre. Dieu a donné à ceux qui se sont endormis en Christ leur promesse, à savoir qu'ils ressusciteront d'abord. Et Dieu a donné à ceux qui vivent en Christ leur promesse, à savoir qu'ils seront changés. Et ensuite, il nous a fait ensemble la promesse que nous serions enlevés à sa rencontre dans les airs, et nous rencontrerons dans les airs, et que nous serons toujours avec lui, unis pour toujours avec le Seigneur. Qu'il est beau de pouvoir croire de tout cœur à la parole de Dieu et de se débarrasser de toute fantaisie pieuse qui ne fait que nous égarer et éveiller en nous de faux espoirs et déchirer les gens. Peut-être pas eux-mêmes, mais divisés entre eux. Je poursuis ma lecture et puis précisément le dernier paragraphe de la page 43. Malgré nos erreurs, vous dites, oui, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas grave. Abraham aussi a commis des erreurs. Il ne peut pas emporter l'assemblée, il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas prendre votre vie, car vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle se révèle, se prouve par l'amour, la joie, la paix. La longanimité. Vous croyez toutes les paroles de Dieu. Chaque parole de Dieu. Elles agissent toutes. Dieu agit à travers vous. Vous voyez, vous faites partie de la parole. Vous êtes une partie de la parole de Dieu qui est Christ. Il nous a été enseigné qu'il est la parole. Et nous sommes la chair de sa chair et les os de ses os. Il en est ainsi. Nous arrivons maintenant aux Éphésiens. Puis à nouveau, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Mais vous pouvez lire tout cela chez vous. Ce n'est pas un matériel nouveau pour nous. Il est bon de savoir que Dieu a un plan pour l'Église. Il est bon de savoir que l'on peut comprendre ce plan et s'y intégrer et se laisser insérer. Et tout ce que Dieu a prévu, il le fera en temps voulu. À la page 44, nous lisons au milieu. Faites bien attention maintenant. Enfin, j'en étais au sujet de la pluie de l'arrière-saison. Tous les signes indiquent maintenant la fin. Tous ceux qui croient la parole de Dieu le reconnaissent. Puis dans le dernier paragraphe, l'obéissance. Maintenant, voyez. Je vous montre que nous sommes dans les temps de la fin. Même la parabole des vierges folles et des vierges sages s'applique. Voici que les vierges folles représentent le croisement. Elles avaient la semence sans l'huile, l'humidité, pour qu'elle puisse pousser. Il y a donc deux choses, nous l'avons déjà vu hier, les uns accueillent, reçoivent, gardent la parole qu'ils ont entendue et l'Esprit la fait vivre en eux. Les autres reçoivent la parole mais la croisent et ajoutent leur propre vue, façon de voir, opinion, le penser et à nouveau la mort spirituelle survient. Quand la mort terrestre t'est-elle produite? Dans le jardin d'Éden, peut-être aussi la mort spirituelle, peut-être les deux, peut-être l'un plus tard, ou bien l'une plus tard, plus tôt, d'autres plus tard, lorsque la parole a été transgressée, lorsque des pensées personnelles ont été intégrées à la parole et que la parole, dans sa forme originale, n'a plus été crue et mise en pratique. Chaque fois que cela se produit, la mort spirituelle s'abat sur l'Église. Mais nous croyons que Dieu, par la parole originale, nous a sorti des prisons spirituelles où régnait la mort. Et nous a rendus vivants. Nous l'avons déjà d'ailleurs entendu dans la parole d'introduction. Dieu nous a déjà rendus vivants par Christ avec lui. Avec lui, déjà. Pour autant que nous entendions sa parole, que nous la recevions en nous et que la semence trouve tranquillement place dans nos cœurs et que l'Esprit la rend, peut la rendre vivante et que nous naissons de nouveau pour une espérance vivante. De la page 45, je lis juste après le milieu. Voyez quelle sorte de réveil ils ont. Ils ont eu de puissants réveils. Cela semble bien, n'est-ce pas? Vous dites oui, frère Branham. Mais que maintenant, tu nous as apporté dans une situation dangereuse. Oui, c'est là que je voulais vous avoir. Sinon, comment pourriez-vous reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux? Examinez tout à la lumière de la parole. C'est le seul moyen de savoir si c'est juste ou faux. Examinez cela au travers de la parole. Peut-être que quelqu'un qui a du mal avec ça entendra cette parole, cette prédication. Mais je le fais quand même, je dis ce que je dois dire, ce que je me sens tout à coup obligé de dire. Combien compare les déclarations de frère Branham entre elles, sans les reprendre dans la parole, et retrouver ça dans la parole. Et ils ont une telle liste de déclarations différentes, elles dépassent toutes, donc cette liste dépasse toute mesure de toute limite. Ici, frère Branham dit de comparer tout avec la parole, d'examiner tout par rapport à la parole, pour déterminer, pour ensuite voir si cela est vrai ou faux. Dieu est le Dieu de sa parole. Qu'il en soit remercié pour l'éternité. Il n'y aura pas d'autre Dieu à moins que vous le fabriquiez. Alors ce sera une idole et ce ne sera plus Dieu. Dieu est Dieu et il reste Dieu éternellement. Que devons-nous donc faire? Tout comparer à la parole de Dieu. Puis prendre notre position définitive dans la parole et sur la parole. Voyez ce qui est dit sur la parole. Vous pouvez tester un esprit par ce qu'il dit de la parole. S'il nie la parole, alors ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Peu importe ce que c'est, si cela nie la parole, ce n'est pas de Dieu. Combien en ai-je rencontré? Et là, que Dieu me pardonne maintenant et qu'il ne m'en veuille pas. Combien en ai-je rencontré? Et je les appelle aujourd'hui, comme vous appelez les autres, des adeptes de Branham. Pas des disciples de Jésus-Christ, mais des adeptes de Branham. Et qui ont simplement dit, maintenant Dieu a parlé, a dit ceci, Dieu a dit cela, cette parole, la Bible, on ne l'a pas compris maintenant, Dieu a envoyé un prophète, dont nous la laissons tomber, nous écoutons maintenant cet homme de Dieu. De quoi est-ce que frère Branham a parlé, a prêché? Sur quoi est-ce qu'il a prêché? Où est-ce qu'il a dû nous ramener? À la parole originale. Et qu'est-ce que c'est que la parole originale? la parole de Dieu demeure pour l'éternité, éternellement. Le ciel et la terre passeront. Je crois que frère Branham a été envoyé avec la parole originale pour nous y ramener. Vous savez qu'on ne peut pas parler de tout, mais la douleur dans mon âme est si grande quand je voyage à travers la moitié du monde et que d'autres peuvent quand même signaler que des choses non bibliques sont annoncées. Combien grande est alors la douleur? Et comme il est bon que je puisse alors apporter mon aide et dire « Attendez une minute, cela ne vient pas de William Branham. Cela vient de ceux qui ont interprété ces paroles. » William Branham était un véritable homme de Dieu, un prophète du Très-Haut. C'est ainsi que Dieu m'utilise aussi pour dire aux gens ce dont ils ont besoin pour être éclairés. Encore un peu, et nous arrivons à la fin aussi. À la page 49, le dernier paragraphe. Chaque semence doit produire selon son espèce. Dieu a créé l'homme à son image, selon son espèce, pour être sa parole ici-bas. Il a exprimé ce qu'il était en Jésus-Christ. Ce qu'il était lui-même, il a exprimé en Jésus-Christ. Dieu était en Christ. C'était un homme à l'espèce de Dieu, selon l'espèce de Dieu, selon son espèce. Dieu est la parole. Comment ils savent que Dieu est la parole? La parole était en Christ. Un homme, un humain. Et par lui, la parole a été exprimée. C'était Dieu, la parole, en Christ. Dieu s'est exprimé lui-même. Au commencement, Dieu créa l'homme à sa propre image. C'est le genre d'homme que Dieu fait aujourd'hui. L'homme, nous l'avons déjà dit et souligné, sera celui qui aura cru. Donc, celui qui a cru, les vrais enfants de Dieu, redeviendront après l'achèvement ce qu'ils étaient avant la chute. Entièrement à l'image de celui qui nous a créés. C'est pourquoi il fallait qu'il vienne dans un corps de chair pour nous racheter, nous qui avions péché dans ce corps de chair et étions séparés de Dieu, et nous donner la possibilité d'en sortir pour être ensuite transformé à son image. De nouveau, quelle harmonie dans toute la parole de Dieu. À la page 50, le petit paragraphe au-dessous du milieu, Jésus était la parole exprimée. Croyez-vous cela? Que devons-nous donc être? Mais aussi des fils de Dieu, en qui, en tant qu'Église, la parole s'exprime. Ça, c'est le corps mystérieux du Christ qui poursuit l'œuvre que Jésus a commencée ici-bas. Ça, c'est l'espèce selon son espèce. Tout produit selon son espèce. Et ici, frère Branham utilise une phrase aussi forte. C'est l'espèce selon son espèce. Tout produit selon son espèce. Jésus a été placé en terre comme le grain de blé. Il est écrit que s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il est mort, il produit beaucoup de fruits. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est produit. Le même grain de blé qui a été placé seul dans le sol ressort ensuite en plus grand nombre lors de la récolte. 100% des mêmes ingrédients, des mêmes composants dans la récolte, dans l'épi, tels qu'ils étaient auparavant dans le grain qui a été mis en terre. Amen. Ainsi, à la fin, chaque fils et fille de Dieu sera à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parfait, comme il était. À 100%. Pouvez-vous tous le croire? Amen. C'est ainsi que ce sera. J'espère que nous n'aurons pas de mal à croire Dieu. Nous avons assez honte de nous-mêmes, mais pas de Dieu. Il tient ses promesses. On pourrait lire beaucoup, beaucoup plus sur ce sujet. J'espère que cela vous a incité à lire quelques passages afin que nous puissions continuer à chercher, à faire des recherches, à nous approfondir, je veux dire, à la maison et permettre à Dieu de nous parler. Ici, frère Branham continue encore, développe encore quelques points. Je voudrais simplement lire encore un peu sa prière. Quelque chose de sa prière. De sa prière à la page 53, dernier paragraphe. Père céleste plein de grâce, nous ne voulons pas encore terminer la réunion, mais seulement l'interrompre pour nous reposer un peu. Que la semence semée ce matin soit tombée dans une terre bonne et fertile. Que la récolte soit abondante, Seigneur, une abondance de vie éternelle. Nous prions maintenant, Père, pour que la semence qui a été semée reste là à attendre et attendre encore jusqu'à ce que la pluie de l'arrière-saison tombe. Ceux qui attendent, qui s'attendent au Seigneur, qui persévèrent dans le Seigneur, reçoivent de nouvelles forces. Ô Dieu, que nous ne devancions pas ta parole, mais que nous restions avec elle. Accorde-le-nous, Seigneur. Cette prière, je n'ai rien à ajouter à cette prière. Je voudrais seulement souligner une fois de plus le souhait qu'il a exprimé. Encore une fois. Que le Dieu Tout-Puissant parvienne à faire de nous des êtres humains capables d'attendre réellement que l'heure de Dieu sonne. Nous portons cette noble semence divine dans nos cœurs comme la parole originale de Dieu. Aussi vrai que Christ, la parole est morte et ressuscitée, est morte et ressuscitée, aussi vrai aussi, nous croyons que le même Dieu en nous, en ceux qui croient sa parole, le même Dieu se glorifiera en nous et dans tous les petits détails confirmera sa parole jusqu'au bout. Dieu a une église sur terre qui a été prédestinée à entendre la parole pure en ces derniers jours. Une église qui ne la mélangera pas encore une fois, mais qui la reçoit et l'accepte telle qu'elle a été apportée. Que la bénédiction de Dieu repose sur nous tous. Amen. Nous levons pour la prière. Peut-être chantons-nous le chorus, le cœur tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, ainsi cela doit être. Pas ma force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave pur du péché. Agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, sans rien de moi, pas ma force, mais la tienne et la tienne seule. Ton sang me lave pur du péché. Agneau de Dieu, je viens. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta parole ce matin. Nous savons que ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais que c'est toi qui nous as parlé par ta sainte et précieuse parole. Nous en sommes tellement reconnaissants, Seigneur, qu'elle soit tombée au plus profond de nos cœurs et qu'elle porte du fruit pour l'éternité. Donne, accorde-le-moi, Seigneur, accorde-le à nous tous, Seigneur, même si nous sommes confrontés à des épreuves, que nous puissions tenir bon et que nous ne regardions pas tant l'épreuve, mais que nous te regardions à toi. Toi, Seigneur, qui nous guide et nous conduit. Seigneur, avant la fondation du monde, tout a déjà été prévu pour nous, déterminé pour nous, pour notre bien. Nous voulons, Seigneur, accepter aussi les épreuves avec reconnaissance et louer ton Saint-Nom pour cela. Aide-nous tous à le faire, mon Dieu. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis tous ceux qui sont venus, Seigneur. et accorde-nous ta grâce en attendant. Seigneur, aide-nous et nous serons aidés. Bénis-nous, ô Seigneur, et nous serons bénis. Nous te remercions du fond de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.